Exceptionnel ce matin, il y a un polycopier, ou en tout cas un fascicule en fait pour pouvoir suivre la prédication. Et donc comme la semaine dernière, nous sommes dans cette série un peu thématique, un peu exceptionnellement, au sujet de l'Église, au sujet de pourquoi devenir membre d'Église. Et donc en attendant, je vous invite à trouver dans vos Bibles la page, en fait, les Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 2. Et c'est à la page 708. Et je vais prier d'abord. Merci notre bon Père Céleste pour ta parole. Merci de ce que toi tu parles par cette parole. C'est ton esprit qui l'a inspiré, c'est son souffle qui parle par cette parole. Et notre bon Père Céleste, conduis-nous ce matin pour que nous puissions être instruits, grandir, devenir plus mûrs dans la foi. Et surtout pour que nous puissions vivre la réalité de l'Église d'une manière qui t'honore. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Donc, acte 2, et on va lire à partir du verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Voici notre texte principal. Alors la semaine dernière, j'ai commencé en vous parlant d'un ami qui commençait à fréquenter une église qui avait un système de membres officiels. Et cet ami ne savait pas comment devenir membre. Il se demandait en rigolant s'il fallait connaître un code secret ou serrer la main d'un des anciens d'une certaine manière pour être enfin accepté. C'était un peu opaque la façon de devenir membre. Et donc le message de la semaine dernière et celui de ce matin, ces messages ont pour vocation de nous aider à voir un peu plus clair et comprendre ce que la Bible dit à ce sujet-là. Pourquoi devenir membre de l'Église? Pourquoi participer par exemple aux réunions de membres, aux discussions, à l'accueil de nouveaux membres, aux votes sur de nouveaux anciens, de nouveaux pasteurs, diacres, sur les projets d'Église, sur les finances? Dans un sens, tout ça peut avoir l'air un peu administratif, mais en réalité, tout ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg de la vie d'Église. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième volet. Alors, la semaine dernière, nous avons vu de quelle manière la Bible présuppose que l'Église elle-même, c'est-à-dire des chrétiens qui la forment dans un lieu donné, que ces chrétiens ont de l'autorité de dire qui représente Christ, qui est croyant, qui n'est pas croyant, qui n'est plus croyant. Et ça par les signes, les symboles que Jésus nous a donnés, à savoir le baptême et la Sainte Cène ou le repas du Seigneur. Et dans une société qui prône la liberté individuelle, peut-être ça nous a mis un peu mal à l'aise. N'est-ce pas l'individu de décider s'il représente Christ ou pas? Ou s'il peut dire publiquement qu'il est chrétien. Mais en fait, on a vu que c'est Jésus lui-même qui a délégué cette autorité à son Église. Et ça lui importe qu'on le prenne au sérieux, parce que Jésus, on l'a vu la semaine dernière, nous a donné cette vocation en tant qu'Église, et là je parle de toutes les églises locales de la terre. Il nous a donné cette vocation de briller, de rayonner avec sa gloire, d'être des plantations, des arbres, destinés à manifester sa splendeur. Et c'est pour ça que l'Église doit user de discernement, faire bon usage de ces deux symboles, ces deux actes d'obéissance, le baptême et la scène. Le baptême qui est en quelque sorte la porte d'entrée dans l'Église, et la scène, ce repas, ce signe fort de la communion fraternelle et notre communion avec le Seigneur lui-même. Mais ce matin, nous allons examiner un peu la vie de cette Église. On a vu l'autorité, la vocation et l'autorité de cette Église. Et ce matin, nous allons voir la vie de cette Église. Et on va voir encore une fois que l'Église est loin d'être un simple club associatif ou un prestataire de services religieux. Elle est beaucoup plus que ça. Et on va voir qu'elle est beaucoup plus comme une famille avec des liens très très forts. Donc j'aimerais ce matin que nous voyions que l'engagement mutuel définit l'Église. Ça c'est peut-être le titre que j'ai donné là en haut du polycopier. L'engagement mutuel définit l'Église. Il est au cœur de ce que c'est l'Église, comme c'est au cœur de la vie chrétienne elle-même. Et j'aimerais me référer à ce triangle que vous aviez sur les feuilles. Donc, c'est un pasteur Mark Dever qui a proposé cette image, on l'a changée, je l'ai changée légèrement. Et ce triangle est censé nous montrer la complexité et la simplicité des relations dans l'Église. Et encore une fois, tout ça suppose que nous savons d'une manière ou d'une autre qui est dans l'Église, qui n'est pas encore dans l'Église, qui n'est plus dans l'Église. Et on voit quelque chose de la beauté de ces relations dans le passage qu'on vient de lire. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 42. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Très clairement, l'Église de Jérusalem n'était pas un club associatif ou un événement auquel les uns et les autres venaient de temps en temps, selon leur humeur ou selon leur disponibilité. L'image qui en ressort, c'est l'image d'une communauté, qui s'est engagée à vivre la foi ensemble, à être là les uns pour les autres. On voit qu'il y a une assiduité aux réunions. Ils prennent au sérieux leur responsabilité, leur engagement mutuel. Et on voit que c'est une communauté marquée par l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de son peuple. C'est aussi une communauté marquée par l'adoration, par la reconnaissance. Et dans la suite du Nouveau Testament, et on le voit déjà dans ce passage, on voit comment cette engagement mutuel s'articule, comment il est structuré, comment il est vécu. Et on va voir ça ce matin avec trois points. J'ai mis les trois points sur le polycopier. Pourquoi devenir membre d'Église ? Un, pour vivre un engagement mutuel les uns envers les autres. Et deuxième point, pour vivre un engagement entre l'individu, le frère et la sœur, et ses anciens, les responsables d'Église. Pourquoi devenir membre ? Pour vivre un engagement entre les anciens et l'Assemblée en général, l'Église en général. Et on va voir ça en trois étapes. Et le premier axe que je veux souligner sur l'image, sur le triangle, c'est ce lien entre l'individu ou les membres de l'Église et les autres membres de l'Église. Donc, entre nous, est-ce que vous voyez ça? C'est tout en bas, l'individu et les membres de l'Église. Il s'agit de notre manière de vivre ensemble en tant que frères et sœurs. Et ça, quel que soit notre rôle dans l'Église, quels que soient nos dons, qu'on soit ancien ou pas, diacre ou pas, en fait, ça nous concerne tous. Et sur l'axe, j'ai marqué deux choses. Première chose, la redevabilité réciproque. Et deuxième chose, j'ai mis s'aimer, s'encourager, s'avertir, etc. Alors, qu'est-ce que c'est cette redevabilité réciproque? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes redevables les uns envers les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, l'individu, votre frère en Christ, moi, je vous demande, mes frères et sœurs, de m'aider à vivre la foi chrétienne et à persévérer dans la foi chrétienne. Et comme nous avons déjà vu la semaine dernière dans Matthieu 18, où Jésus a parlé de l'Église, où Jésus a parlé du péché, ça veut dire que moi, j'ai, en tant qu'individu, en tant que frère, j'ai besoin de vous. Et que vous, vous avez besoin de moi, vous avez besoin les uns des autres. L'apôtre Paul dit cela aussi dans sa lettre aux Galates, je cite, 6.1, « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Concrètement, ça veut dire que si moi, je devais pécher d'une manière grave, une infidélité, des mensonges, de la malhonnêteté, de l'abus psychologique ou spirituel, si par mon manque de repentance, je montrais que je quittais un peu la foi, je ne suivais plus Jésus, en fait, j'aurais besoin de votre rappel à l'ordre. Et ce rappel à l'ordre ne serait pas un jugement hautain ou hypocrite, chose que Jésus défend, mais un acte de votre amour fraternel envers moi. Je parle de moi-même, mais bien sûr, c'est réciproque, ça vaut pour nous tous, les uns envers les autres, ça vaut pour les anciens. En fait, je suis appelé à soumettre ma vie de disciple de Jésus en suivant Jésus, à l'Église, soumettre ma vie de disciple à mes frères et sœurs. Bien sûr, encore une fois, je ne la soumets pas à l'Église universelle, mais à un groupe particulier, à une Église locale, à un groupe de personnes bien définies que je connais, qui me connaissent, une communauté qui vit cet engagement mutuel et qui peut exercer cette redevabilité réciproque. Alors, cette idée selon laquelle nous soumettons notre vie de disciple à l'Église locale, à nos frères et sœurs, c'est quand même un peu révolutionnaire. Ça tranche avec notre culture où nous prisons avant tout la liberté individuelle. Et nous ne voulons pas que les uns les autres nous rappellent à l'ordre s'il le faut. C'est clair, on ne peut pas d'une culture d'église culpabilisatrice ou d'une culture d'espionnage, loin de là, mais une culture de confiance, mais une culture de soumission volontaire réciproque. Voilà pour la redevabilité réciproque. Ensuite, on voit le fait de s'aimer les uns les autres. C'est primordial. Et le Nouveau Testament a énormément de choses à dire concernant cet amour réciproque. Voici quelques exemples. Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et rivaliser d'estime réciproque. Romains 12, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, aux chrétiens, et exercez l'hospitalité avec empressement. Ou Galates, verset 6, chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. 1 Thessaloniciens 5, nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Hébreux 10, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Il y a de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Est-ce que vous voyez qu'il s'agit, l'Église, il s'agit d'un engagement mutuel. Un engagement à être l'Église du Seigneur, ensemble. Et comme on l'a vu la semaine dernière, la vocation, c'est pour qu'on resplendisse avec la grandeur de l'amour de Dieu, avec sa gloire. Alors, ce n'est pas d'abord un engagement envers tous les hommes, même si nous sommes appelés à aimer chacun. Ce n'est même pas simplement un engagement à aimer tous les chrétiens, où qu'ils soient, même si nous avons un devoir envers eux aussi. Mais c'est un engagement, c'est vraiment un engagement très spécifique et focalisé. C'est de vivre tout ça au sein d'une église locale. Parce que le Seigneur veut que chaque église locale, comme celle ici, comme celle de Nanterre, comme peut-être celle de Rueil-Malmaison, il veut que chaque église locale soit une plantation, un arbre, en quelque sorte, qui resplendit avec sa gloire. Alors, c'est les frères et sœurs qui vous entourent ce matin, et le Seigneur vous demande de les aimer. Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce que ça, c'est un engagement qu'on veut prendre? Éphésiens 4 nous montre que cet amour réciproque est surtout notre manière de nous parler les uns aux autres de l'évangile, de l'amour, de la vérité. C'est ça ce qui nous fait grandir ensemble. Et ça nous protège parce qu'en grandissant, on devient plus mûr et on est plus à l'abri des tentations. Donc nous avons besoin de nos frères et sœurs. Et en particulier, nous avons besoin de cet engagement mutuel. Nous nous exposons au risque du découragement, du doute, de la tentation, de la chute quand on ne vit pas, quand on n'a pas cet engagement mutuel. On est un peu comme des braises enlevées du feu qui se refroidissent. Alors c'est vrai qu'on peut vivre cet engagement au sein d'une église comme celle-ci, sans un système de membres officiels. Nous pouvons nous aimer les uns les autres, et je pense que c'est ce qu'on fait. Et nous savons, à force de venir toutes les semaines, qui est chrétien, qui sont nos frères et sœurs. Mais un système clair nous aide à nous aimer les uns les autres, parfois de manière très pratique, parfois de manière matérielle, parfois de manière financière. Et on voit cette solidarité dans l'église de Jérusalem, dans Actes 2, où les besoins des chrétiens étaient connus. Ils vendaient, ils mettaient en commun leurs biens pour qu'ils puissent s'occuper de ceux qui étaient dans le besoin. Et en plus, cette redevabilité réciproque avec la discipline d'Église, comme on a vu la semaine dernière, est difficile à vivre s'il n'y a pas un système de membres clairs. Parce que cette redevabilité mutuelle présuppose que nous sommes entrés dans l'Église de manière claire et ouverte. Ça, pour qu'on puisse, s'il le faut, et on espère que ce n'est pas le cas, être exclu si on ne vit plus comme disciple de Jésus. En tout cas, on voit cet engagement mutuel, les uns envers les autres. Ça définit la vie d'Église, ça définit l'Église. Ensuite, on va passer au deuxième point. Donc, pour vivre un engagement entre le frère et la sœur et les anciens. Et on est un peu sur cet axe à gauche, donc du haut vers le bas, donc, mais à gauche. Les anciens... Donc, les responsables de l'Église ont des responsabilités envers l'individu, envers le membre d'Église. Et je l'ai appelé ici un ministère de protection pastorale. Il s'agit du terme « évêque » dans la Bible, qui veut dire « surveillant », le fait de veiller sur les âmes. Et les membres, réciproquement, ont une responsabilité de se soumettre à la conduite des anciens. Et on va voir ça dans Hébreux chapitre 13. Donc je vous invite à trouver ce passage. C'est à la page 795. 96, en fait. C'est le verset 17. C'est dans les instructions pratiques à la fin. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors ça, c'est le genre de verset qui passe pas forcément comme des lettres à la poste de nos jours. Alors, il faut bien préciser que cette obéissance, cette soumission n'est pas absolue. Ce n'est pas aux anciens de s'ingérer dans les détails des vies, des membres d'Église. Ils ne sont pas des mini-dictateurs. Il faut que la conduite des anciens soit biblique, humble, douce, bienfaisante, mais aussi parfois claire, ferme, mais toujours juste. Et bien sûr, les anciens ne vont jamais le faire d'une manière parfaite. Ils sont pécheurs aussi. C'est pour ça qu'eux aussi ont besoin de cette redevabilité réciproque. Mais si on fait ça dans un esprit humble, c'est d'autant plus facile pour les anciens de le faire. L'illustration évidente, c'est celle qui concerne la famille. Dans une famille, il y a une structure. Il nous faut des parents qui conduisent, qui protègent, qui prennent leurs responsabilités. Alors, les anciens ne sont pas les pères, ou les membres ne sont pas les enfants non plus. Ce n'est pas ça. Les anciens sont également des membres d'Église avec cette redevabilité mutuelle. Mais comme dans toute famille, il faut une structure. Il faut une structure aussi d'autorité. Et tout ça, en tout cas, c'est une relation qui présuppose que nous vivons un engagement mutuel dans l'Église. Un ancien ne veille pas sur toutes les âmes de l'Église universelle. Le Seigneur Jésus, qui est le souverain berger, a confié aux anciens d'une Église certaines brebis. Il faut que ces anciens soient les sous-bergers d'un sous-groupe, c'est-à-dire l'Église locale. Et pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'ils sachent qui sont les brebis de cette Église, qui ne sont pas encore les brebis de cette Église, ou qui sont malheureusement plus les brebis de cette Église. Et c'est difficile quand on ne sait pas qui est membre. Bien sûr, les anciens ne vont pas se désintéresser de ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de devenir membre. Mais en même temps, si vous êtes là depuis un moment et c'est vraiment votre Église ici, je vous encourage à réfléchir, à devenir membre, à formaliser cet engagement mutuel. Et conversement, un chrétien ne va pas se soumettre à la conduite biblique de tous les anciens de toutes les églises au monde, mais seulement aux anciens de son église locale, les anciens qu'il connaît. Il peut voir leur vie, leur témoignage, peut tester si leur enseignement est biblique. Et ces anciens sont également soumis à la redevabilité réciproque de l'Église. En tout cas, je vous invite à prier pour vos anciens, comme ils prient pour vous. Cet engagement mutuel n'est pas toujours facile à vivre. On a tous besoin de l'aide du Seigneur. Et pour les anciens, en tout cas, dans les moments difficiles, ce n'est pas toujours facile quand il faut dire des choses et être clair. Ensuite, c'est le troisième axe. Pourquoi devenir membre d'Église ? Pour vivre un engagement entre les anciens et l'Assemblée en général. Et là, on voit que les anciens ont la responsabilité de faire paître l'Église, de prendre soin de l'Église par un bon enseignement, en étant un bon modèle de cet enseignement. Et si on revient aux Actes des Apôtres, c'est ce que les apôtres faisaient eux-mêmes dans l'Église de Jérusalem. Et les anciens aujourd'hui le font en enseignant fidèlement ce que les apôtres ont enseigné. Voici ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre. « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Encore une fois, il ne s'agit pas là du troupeau de l'Église universelle, mais d'un certain groupe qui est sous leur garde. Et il faut que ces anciens-là se donnent avec dévouement à prendre soin de ces brebis-là, d'une manière exemplaire. Ça, c'est leur engagement. Et dans l'autre sens, l'apôtre Paul dit ceci dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Alors, cette relation entre les anciens et les membres d'une église en général présuppose que les anciens connaissent les membres et que les membres connaissent leurs anciens. Ça présuppose une église locale où les membres vivent un engagement mutuel, les uns avec les autres. Et donc ces trois axes, avec ce triangle, nous montrent le tableau que le Nouveau Testament nous peint. Un beau tableau marqué par un engagement mutuel, un engagement d'amour, être l'Église ensemble pour refléter sa gloire. Parce que c'est ainsi, en vivant ça, c'est ainsi que nous allons refléter sa gloire. Donc il y va de notre témoignage. Nous sommes appelés à vivre l'Évangile ensemble, à ensemble montrer l'Évangile au monde. Et ça, on le fait en grande partie, par cet engagement mutuel, par notre vie d'Église, les uns avec les autres. Il y va de notre témoignage. Est-ce que ça change un peu votre manière de voir l'Église ? Notre manière de vivre l'Église locale, semaine après semaine, est vitale pour nous-mêmes, pour notre persévérance dans la foi, pour notre maturité dans la foi, mais vitale aussi pour le monde qui nous entoure, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Parce que ce monde a besoin de voir la gloire de Dieu, reflétée imparfaitement, c'est sûr, dans l'amour sacrificiel de cet engagement mutuel. Ma prière, c'est que ce rappel de la vocation de l'Église et l'engagement qui est au cœur de notre vie d'Église, ma prière, c'est que ça nous a vraiment rappelé nos responsabilités et aussi nos privilèges. Nous avons besoin de l'aide de Dieu lui-même pour les vivre, pour vivre ses responsabilités pleinement. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de son esprit. Et justement, si on va faire ça, nous avons besoin de nos frères et sœurs. C'est vital. On a besoin de cet encouragement mutuel. J'aimerais terminer, quatrième point sur le polycopier, en parlant de comment devenir membre d'église dans cette église, parce qu'on ne veut pas que ce processus soit opaque. Il suffit simplement de demander un rendez-vous à un des anciens de l'église, à moi-même, à Keith, à Jonathan, à Michael, à François. Et ça, c'est l'occasion de parler de votre parcours personnel dans la foi, mais aussi ça vous donne l'occasion de vous poser, pour que vous puissiez poser des questions sur la vie de l'Église, sur sa foi, sur ses projets. Et ensuite, ces anciens vous présentent aux autres membres d'Église, en leur demandant de vous accepter, de vous accueillir comme membre d'Église. Et ces membres ne vous accueillent pas parce que vous êtes des super chrétiens ou vous avez fait vos preuves dans l'Église. C'est pas ça, non. C'est simplement parce que vous avez, vous aussi, mis votre confiance en Jésus-Christ. Parce que vous voulez, vous aussi, vivre cet engagement mutuel. Aussi longtemps que vous êtes dans cette région de l'Île-de-France. Et dans notre Église, nous posons 5 questions aux nouveaux membres. Et ces 5 questions... Essaye de refléter, imparfaitement sans doute, cet engagement mutuel. Et ces questions servent aussi de rappel aux membres existants. Voici l'Église, voici notre vie d'Église. Et donc, je vais juste vous lire ces 5 questions avant de terminer. Reconnaissez-vous que vous êtes pécheur, pécheresse devant Dieu, que dans sa grâce souveraine, vous êtes sans espoir et méritez sa condamnation. C'est vrai pour nous tous, ça. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul Sauveur? Et vous confiez-vous en lui seul pour être sauvé, comme il vous l'offre dans l'Évangile? Est-ce qu'on a mis notre confiance en Jésus? Vous engagez-vous à vous efforcer désormais de vivre en disciple de Christ, selon la parole de Dieu, dans l'humble dépendance de la grâce du Saint-Esprit? Vous engagez-vous à soutenir l'Église en son service et sa mission, et d'y œuvrer du mieux que vous le pourrez. Acceptez-vous de vous soumettre à la gouvernance et à la discipline de l'Église, et vous engagez-vous à faire tout votre possible pour contribuer à la pureté et à l'unité de celle-ci. Alors le but de ce message, ou ces deux messages, n'est pas de mettre de la pression sur ceux qui ne sont pas encore membres. Parfois, il faut prendre le temps. Parfois, il faut bien réfléchir à ses choix. Mais j'espère qu'en voyant ce que la Bible dit à ce sujet, que nous voyons à quoi Dieu nous appelle. Voici la vocation de l'Église. Voici ce qu'il veut qu'on vive ensemble. Prions donc que Dieu nous aide tous à vivre en tant que communauté, à sa gloire, pour que ceux qui nous entourent reconnaissent par notre amour les uns pour les autres, reconnaissent la grandeur, la gloire de Dieu lui-même. Prions. Merci notre bon Père Céleste pour l'amour que tu nous as montré en Christ. Merci de nous avoir joints à Christ, nous avoir mis en lui, de nous avoir cachés en lui. Et merci de ce que tu nous donnes, ce privilège en tant que communauté locale à vivre cette union avec Christ. Imparfaitement sans doute, mais joyeusement, dans la confiance. Parce qu'un jour on sera avec Christ, avec toi au ciel. On vivra pleinement cette grande assemblée, cette grande église. Mais en attendant notre Père, donne-nous, aide-nous à vivre l'église locale. Aide-nous à vivre cet engagement mutuel qui est parfois difficile, qui est parfois, parfois difficile. Donne-nous de ta force par ton esprit et aide-nous à être une église qui s'encourage mutuellement et qui s'aime mutuellement aussi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.